Sí.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague. Magdalena Hrozinkova au micro vous remercie d'être à l'écoute de notre programme qui sera comme chaque samedi axé sur l'actualité culturelle et littéraire ainsi que sur la découverte de la langue tchèque.
Culture sans frontières.
Le festival du film sur les droits de l'homme One World s'est achevé à Prague jeudi. Il continue en région et se déplacera à Bruxelles en mai. Dans le cadre de la compétition principale, un film français était programmé, celui de Marie Mandy, intitulé « Mes deux seins, journal d'une guérison », consacré à sa lutte contre un cancer du sein diagnostiqué à l'âge de 46 ans. Marie Mandy est cinéaste et elle a choisi de montrer tout le parcours, parfois semé d'embûches, pour guérir ce crâne qui s'était immiscée en elle. De cette expérience est sorti un film, mais aussi un livre de photographie intitulé « Par les yeux d'une Amazone ». Anna Kubeshta a rencontré Marie Mandy et lui a demandé si l'idée de faire un film sur cette épreuve avait été immédiate.
Oui, donc quand j'ai reçu ce diagnostic du cancer, bien sûr, j'étais complètement abattue. J'ai l'impression que le ciel me tombait sur la tête, littéralement. Enfin, c'est un moment très, très difficile. Mais il se fait que dans les années précédentes, j'avais déjà eu l'occasion d'approcher, pour diverses raisons, les médecines complémentaires. J'avais même été en contact avec des gens qui avaient guéri par des moyens presque alternatifs. Et donc j'ai su instantanément que de toute façon, je ne confierais pas mon corps que à la médecine allopathique, mais que je ferais un chemin de toute façon un peu différent, je chercherais d'autres pistes. Et donc, alors voilà, alors évidemment en tant que cinéaste, j'ai tout de suite pensé que ça c'était quelque chose d'intéressant à partager. En fait, je voulais pas vraiment faire un film sur mon cancer en tant que tel, mais l'idée qui m'est venue, c'est que je pouvais utiliser mon propre parcours pour parler de choses sur lesquelles j'avais déjà des convictions. Mmh. Voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce film, et j'ai décidé très vite, en 3-4 jours. Parce que ce qui était intéressant à ce moment-là, c'était évidemment de commencer à filmer directement.
De prendre les choses sur le vif, voilà. Si je puis dire. Ouais.
Voilà, et donc d'être... voilà, on est allé au résultat de la biopsie, déjà avec la caméra. Et puis c'est là où on a appris, en fait, que cette biopsie qu'on m'avait faite quelques jours plus tôt n'était pas suffisamment... n'avait pas réussi. Et donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pu lire ce qu'ils voulaient. Et donc, ils m'ont dit, il faut qu'on refasse une biopsie. Et là, une partie de moi a pensé, eh ben, chouette, parce que la biopsie sera dans le film.
Donc ça, c'est la cinéaste qui a repris le dessus, finalement, sur ce que vous dites d'ailleurs dans le film, que sur la cancéreuse, entre guillemets, puisque vous dites très bien dans le film que finalement, ce qui est quasiment presque plus terrible que le diagnostic, c'est finalement la petite case dans laquelle on vous met directement à partir du moment où vous avez été diagnostiqué, en fait.
Le cancer est une maladie très sociale, en fait. C'est pas du tout un truc qu'on vivrait tout seul dans son coin, mais c'est une maladie qui d'emblée a des effets sur l'entourage, beaucoup de peur, parce que bien sûr ça renvoie tout le monde à la peur de la mort, y compris les gens à qui on dit qu'on a un cancer, qui vous renvoient à vous malade leur propre peur de la mort. Donc il faut gérer ça. Puis c'est une maladie qui touche l'entourage aussi par ricochet. Donc c'est quand même un truc pas si simple que ça à gérer.
C'est avec le sida, est-ce qu'on pourrait dire que finalement c'est un peu les deux maladies du 20e, du 21e siècle, en tout cas de ce millénaire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très présent dans l'imaginaire ou le quotidien des personnes, entre les différentes finalement manifestations, les collectes par exemple de fonds, etc.
Je pense que ce sont deux maladies qui sont effectivement des maladies du 20e siècle, bien que le cancer il existe depuis très longtemps. Hein. On trouve dans des textes anciens déjà des états de personnes qui auraient eu des cancers.
Je pensais plutôt dans la médiatisation, en fait.
Mais dans la médiatisation, oui, et puis parce que ce sont des maladies aussi, toutes les deux, auxquelles la médecine ne comprend pas tout à fait comment elle fonctionne. La médecine sait un certain nombre de choses sur le cancer, elle a des protocoles pour essayer de... on va dire l'éloigner, si possible guérir, mais en fait, ce sont des protocoles relativement par tâtonnement. Hein. Aujourd'hui, la médecine ne sait toujours pas expliquer comment les cellules cancéreuses, par exemple, se propagent dans le corps. Ça reste un mystère.
Oui, donc, puisque vous rappelez en plus dans ce film-là que finalement, et puis les médecins autour de vous, qu'on vit tous finalement potentiellement avec des cancers en nous, sauf qu'ils se développent plus ou moins.
En tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que certainement un des points communs entre ces deux maladies, le sida et le cancer, c'est que ce sont deux maladies qui demandent en fait au système immunitaire une réponse très forte. Parce que le cancer aussi, je veux dire, c'est grâce à notre système immunitaire qu'on va pouvoir éliminer régulièrement des cellules qui sont anormales, qui se fabriquent tous les jours dans notre corps, des cellules anormales. Et c'est quand le système immunitaire est faible que ces cellules anormales vont s'agglutiner, vont finir par muter et vont éventuellement tourner en cancer. Je pense que la plus belle leçon de tout ça, c'est que vraiment, il faut qu'on prenne soin de notre corps. Enfin, je veux dire, de manière préventive, je prends toujours un exemple qui est très simple, mais tout le monde va penser à amener sa voiture au garage pour faire des entretiens. Mais qui pense à entretenir son corps de la même manière, vraiment, avant d'être malade, je veux dire, et vraiment se dire, bah oui, faut capitaliser ce qu'on a. Et surtout faire du sport, c'est pas de la bêtise, vraiment, ça aide à garder un très très bon état, à faire du sport, faire attention à ce qu'on mange, enfin, je veux dire, ça reste des principes de base, quoi.
Alors vous disiez il y a quelques instants, vous parliez de ces protocoles médicaux finalement qui sont là pour enrayer autant que faire se peut un cancer. Alors vous allez voir au cours de ce parcours de nombreux médecins, peut-être beaucoup plus que d'autres personnes. Vous essayez déjà de connaître un petit peu toutes les variantes possibles puisque vous refusez très vite d'attaquer d'une autre manière votre corps, de manière intrusive, que ce soit par la chimio ou d'autres méthodes. Déjà, combien de temps tout cela a-t-il duré? Parce que finalement, vous voyez beaucoup de personnes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à découvrir finalement cette médecin vers laquelle vous allez finalement vous tourner, en Belgique, votre pays d'origine en plus?
Donc en fait, entre le moment où j'ai eu le diagnostic et le moment où j'ai finalement consenti à une première opération, il s'est passé d'à peu près 3 mois. Donc c'est pas énorme. Je m'étais renseignée quand même sur le fait de savoir si je me mettais en danger en prenant du temps. Parce que le gros problème, et je l'ai vécu encore avant-hier en ayant au téléphone une amie qui vient d'avoir, qui vient de découvrir un cancer du sein, c'est que les médecins vous reçoivent et automatiquement ils vous donnent un rendez-vous pour une opération, mais très très vite. Et les gens sont sous le choc et n'ont même pas l'idée que peut-être ils peuvent reculer la date, parce que cette date ne les arrange pas, que peut-être ils ont besoin de réfléchir et d'aller voir un second médecin pour un second avis, parce que voilà, les gens sont sous sidération. Et donc la médecine, elle a tendance à traiter ça à la chaîne en disant, voilà, le protocole, c'est ça, on le fait. Et ça demande un certain recul de dire, attendez, oh, c'est moi le malade ici, hein, c'est quand même mon corps. Peut-être que je vais me soigner comme vous me le dites, mais je veux juste un peu de temps pour réfléchir, me renseigner, voir un deuxième médecin, prendre un deuxième avis, parce que quand même, on se rend compte quand on prend plusieurs avis que tous les médecins ne proposent pas la même chose. Et donc, toute la question de savoir, c'est est-ce qu'on se met en danger ou pas en faisant cela, bien sûr, en prenant du temps. Mais si le cancer n'est pas très invasif ou pas très avancé, bien sûr qu'on a le temps. Donc moi, j'ai pris ce temps. Je voulais ce temps, qui n'était pas démesuré. Donc ça a duré en tout entre 3 et 4 mois.
Hein. Du coup, ça a dû être intensif aussi, à la fois le tournage et les décisions personnelles, parce que ça vous engage vous. Mais à côté de ça, il y a aussi ce tournage qui se déroule finalement quasi en temps réel, quoi.
Oui, bien sûr, mais en même temps, c'était voilà, j'ai pas arrêté, je me suis pas arrêté de travailler. Ça m'a permis de faire un film en même temps, ce qui était bien parce que ça occupait mon esprit, ça me permettait de comprendre des choses, puis de les partager, ce qui est quand même intéressant parce que c'est une partie de mon travail de cinéaste, c'est bien ça, c'est faire des films pour essayer de voilà, d'aider à penser, d'aider à comprendre.
Ce qui m'a étonné dans le film, c'est alors à un moment donné, donc dans cette phase de thérapie, puisque d'une certaine manière, le film aussi est une forme de thérapie, en plus de la thérapie médicale, c'est votre questionnement et les recherches que vous faites en vous, de manière intime, sur la raison de ce cancer, que peut-être c'est vous-même ou votre propre corps qui l'avait provoqué, finalement quasiment avec une espèce de croyance, j'allais dire chrétienne, que vous l'avez pas mérité, mais d'une certaine manière qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes tombé malade. Et en même temps, enfin, tout le film démontre que vous êtes une femme forte, volontaire, qui est indépendante, qui fait des films, etc. Enfin, une femme, voilà, moderne. Et ça contredit complètement, j'ai l'impression, cette image-là. Enfin, moi, ça m'a semblé très paradoxal, finalement, cette recherche d'une faute ou d'une culpabilité.
Oui, alors moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti, en fait. Parce que pour moi, pour moi, les maladies ont un sens. Mais ça, c'est une conviction que j'avais depuis le début. Hein, même avant le diagnostic, je pensais déjà ça. Donc quand on m'a dit que j'avais un cancer, je me suis dit, ok, alors qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, bien sûr que c'est une maladie qu'on se fabrique soi-même. Ça n'est pas une maladie qui vient de l'extérieur. Je veux dire, c'est pas un microbe qui vous attaque, un cancer. C'est quelque chose qu'on fabrique à l'intérieur de soi. Et donc, je me suis dit, mais alors pourquoi je me suis fabriqué ce cancer? qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Donc le film est effectivement une quête de sens sur cette question, et c'est en fait la chose qui m'intéressait le plus, c'était cette thématique-là. Mais pour moi, il n'y a absolument pas de culpabilité là derrière, il y a simplement une responsabilité. Alors j'oppose justement la responsabilité à la culpabilité. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, ça va très bien avec le fait d'être une battante. C'est-à-dire que je me sens responsable de ma vie, et comme je suis responsable, je peux agir sur ma vie. Eh bien, comprendre ça, ça m'a permis justement de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force vitale, de dépasser, et donc finalement de guérir en profondeur. Et aussi aujourd'hui de savoir les choses que je ne dois pas faire pour ne pas me mettre en danger. Donc c'est aussi une espèce d'assurance-vie sur l'avenir, si vous voulez. Donc pour moi, c'est vraiment un acte de responsabilité de dire « Ok, je ne suis pas une victime du cancer. » Je dis « Là, je regarde la réalité en face, je regarde les choses avec lucidité. » Vous voyez ?
À la fin de ce long parcours, il y a quand même eu des étapes, puisque vous faites opérer une première fois, qu'il y a des résultats de cette première opération qui montrent que finalement le cancer est beaucoup plus développé. Donc vous avez dû subir une ablation du sein. Alors évidemment, il y a quelques scènes quand même très piquantes de recherche de dans un magasin de prothèses mammaires. Le choix, est-ce que je vais prendre une prothèse mammaire? Est-ce que il existe des soutiens-gorge avec un seul sein ou pas? Je sais que vous avez rencontré également d'autres personnes, d'autres femmes qui ont eu des cancers du sein. Est-ce que vous savez en gros combien de femmes refusent comme vous de faire une reconstruction du sein, par exemple en France? Et pourquoi celles-ci font-elles ce choix comme vous?
Alors en France, il y a à peu près 300 000 femmes qui n'ont pas reconstruit leur sein. C'est à peu près autant que la population de la ville de Montpellier, ça vous donne une idée, c'est beaucoup de femmes. Et donc de femmes qui se font appeler des Amazones, c'est ce qu'on dit des femmes qui ont perdu un sein dans la bataille du cancer, on va dire par analogie avec ces guerrières de l'Antiquité, hein, qu'on appelait les Amazones, et en fait qui se coupaient volontairement un sein pour pouvoir tirer à l'arc. Donc en France, il y a 300 000 femmes qui ne se sont pas fait reconstruire. Alors, je pense que chacune a des raisons personnelles pour cela. Il faut savoir qu'une reconstruction est une opération compliquée et douloureuse, qu'il n'y a pas forcément de bonne solution, surtout pour les femmes très jeunes, parce que tous les 10 ans, il va falloir mettre les seins à niveau. Vous imaginez, si vous faites par exemple reconstruire un sein avec une prothèse, c'est un sein qui va rester très haut, toujours, puis l'autre, il va vieillir. Après, on peut reconstruire le sein aussi avec notamment de la graisse qui est prélevée dans le ventre des femmes qui ont du ventre. Ça veut dire qu'on fait une cicatrice dans le ventre. On peut reconstruire un sein avec un muscle du dos qu'on fait glisser sous le bras, donc un muscle qui est ramené du dos vers la poitrine pour créer du volume. Mais donc c'est un sein qui va être en matière musculaire, donc qui va avoir des crampes comme les muscles. Alors ils sont incapables de faire des mamelons, donc de toute façon c'est pas très joli.
Oui, c'est tatoué. J'ai appris à cette occasion-là que finalement on tatoue.
On tatoue un mamelon, voilà. Donc moi je me suis demandé, est-ce que j'ai besoin d'avoir un faux sein? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce volume pour rester féminine, femme? Ou est-ce que finalement ma féminité est quelque chose de bien plus intérieur et que je peux tout à fait continuer à vivre avec un sein? Donc, moi j'ai fait ce choix-là parce que j'avais plus envie de me faire opérer et que je pense aussi que quelque part, puisque j'ai fait ce chemin personnel, psychologique, qui est aussi quelque part un voyage spirituel, hein, pour se reconnecter à son identité profonde. Puisque j'ai fait ce chemin, est-ce que je ne peux pas aussi assumer que finalement mon corps porte la trace de ce que j'ai vécu? Et voilà, et c'est là, et c'est ce que je suis aujourd'hui.
C'était la réalisatrice Marie Mandy au micro d'Anna Kubishta. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Notre programme se poursuit par le cours de la langue tchèque, une de vos émissions préférées animée par Guillaume Narguet. Aujourd'hui, il sera question de nourriture.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Retour aujourd'hui sur les expressions de la langue tchèque relatives à la nourriture et à certains aliments que l'on retrouve dans la chanson
Poslední večeře,
le dernier dîner, ou la scène du groupe tchèque Xindel X. Dernièrement, nous avions ainsi découvert et décortiqué les idiomes avoir du beurre sur la tête,
mít máslo na hlavě,
être du sel dans les yeux,
být solí v očích,
étaler du miel autour de la bouche,
mazat med kolem úst,
et ne pas pleurer pour du lait renversé.
Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.
Cette fois, il sera question de prunes, de pommes de terre, de goulash ou même encore d'un bout de lard. Jsem vám zavařil, se mě přehazujete jak horký brambor, s každým hodem vím, že chodem budu já. Tak z očí se berte sůl a v ní... Première expression à nous intéresser que l'on retrouve dans cette chanson.
Přehazovat si něco jako horký brambor.
Soit jeter, se repasser, se refiler quelque chose comme une patate chaude. En tchèque comme en français, le sens est évident et équivalent. Une pomme de terre brûlante ne pouvant être tenue dans les mains au risque de se brûler les doigts, il s'agit de passer à quelqu'un une mauvaise affaire, un problème dont on ne veut pas s'occuper afin de s'en débarrasser. Un peu plus loin dans la chanson, il est cette fois question de remballer ses quelques prunes.
Zbalit si svých pár švestek.
Ici, le mot
švestky,
prune, désigne des affaires. Une fois cela précisé, le sens de l'idiome devient évident. Remballer ses prunes ou ses affaires signifie partir. La véritable expression, cependant, est
zbalit si svých pět švestek,
c'est-à-dire remballer ses cinq prunes, le chiffre 5,
pět,
sert alors à souligner qu'il ne s'agit que de peu de choses, que de quelques affaires. La personne priée de remballer ses cinq prunes rassemble donc les quelques affaires personnelles qu'elle possédait sur son lieu de travail, à son domicile ou encore par exemple lors d'une visite chez une autre personne qui s'est mal passée, elle prend ses affaires avec elle et quitte les lieux. Le chanteur se plaint également d'avoir du goulash.
Mám v tom goulash.
Ici, le problème n'est pas d'avoir du goulash, plat ou soupe à base de viande très répandue en Europe centrale dans son assiette, mais plutôt dans la tête. On pourrait presque dire avoir l'esprit engoulaché, c'est-à-dire ne plus très bien savoir ce qu'il en est vraiment, perdre le fil, oublier, se tromper, s'embrouiller, ne plus comprendre une situation ou une explication, ne plus suivre le déroulement des choses, les confondre, les mélanger, un peu comme sont mélangés viande, légumes et aromates dans la préparation du goulash. Les Tchèques disent aussi parfois
udělat z něčeho goulash,
soit faire du goulash de quelque chose ou transformer quelque chose en goulash. Là encore, il s'agit de compliquer les choses en leur faisant perdre leur systématique, leur organisation, leur méthode, voire leur rigueur. Plus simplement, on pourrait affirmer qu'il s'agit de transformer en bordel, dans le sens de grand désordre, quelque chose, par exemple un système qui était bien organisé, ou encore d'instaurer la confusion là où tout fonctionnait bien jusque-là. Bref, le goulash serait ici l'équivalent en français du bazar ou du souk.
Chtěl bych vás utáhnout na vařený nudli. Vím, že mi neskočíte na špek, když vás zkouším opít rohlíkem.
Entendons également dans la chanson. Traduit littéralement, ce qui n'est pas simple, cela nous donne à peu près « Je voudrais vous tirer sur une nouille cuite, je sais que vous ne me sauterez pas sur le bout de lard lorsque j'essaierai de vous saouler avec un croissant ». En traduisant cela, on peut se demander si l'auteur de la chanson ne s'est pas saoulé seul avec un croissant trempé dans le rhum en écrivant son texte. Il s'agit donc d'une phrase ou d'un couplet pratiquement incompréhensible. Cela n'enlève rien au fait que dans chaque phrase se trouve une expression digne d'intérêt. La première d'entre elles est
utáhnout na vařené nudli.
Littéralement, tirer sur une nouille cuite. On peut imaginer à quoi ressemble une nouille cuite. Celle-ci est molle et on peut donc aisément tirer dessus. En fait, tirer quelqu'un sur une nouille cuite équivaut en français à mener quelqu'un par le bout du nez, ce qui signifie que l'on peut lui faire faire ou croire tout ce que l'on souhaite et que l'on possède beaucoup d'influence sur la personne en question. Il est ensuite question de sauter sur le bout de lard.
Skočit na špek.
Un bout de gras ou de lard présenté comme un appât par quelqu'un. L'objectif est de piéger une autre personne en lui faisant croire miroiter quelque chose. La victime piégée se fait avoir, comme on dirait alors en français, elle a été arnaquée, trompée. Enfin, dernière des trois expressions que l'on retrouve dans le couplet,
opít rohlíkem,
soit saouler quelqu'un avec un croissant. Attention cependant, il ne s'agit pas du célèbre croissant vendu dans les boulangeries en France, le
rohlík,
de base, très populaire en République tchèque, est en effet du pain blanc vendu sous forme de petits croissants. Il sert notamment à préparer de petits sandwichs. Curieusement, l'origine de la forme du
rohlík
comme du croissant serait la même. L'un comme l'autre aurait été inventé par un boulanger viennois en 1863 pour célébrer la fin du siège de la capitale autrichienne par les troupes ottomanes. C'est d'ailleurs pourquoi un croissant est une viennoiserie. Le boulanger en question aurait choisi de donner à ses petits pains une forme de demi-lune, un des deux symboles de l'islam, religion de l'ennemi turc. Mais revenons à l'expression
« opitrohlikem ».
« Saoulé avec un croissant » signifie « tromper quelqu'un ». En fait, les Tchèques disent plutôt qu'ils ne se laissent pas saouler avec un croissant, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas facilement avoir, duper, embobiner. On peut supposer que l'équivalent en français est rouler dans la farine comme le croissant dans l'expression tchèque, symbolisant de belles paroles, des arguments factices et donc trompeurs. Chtěl bych vás utanout na vaření nudli, ale vím, že mi neskočíte na špek, když vás zkouším opít rohlíkem. I když to občas bylo maso, zkuste dnes na pánvi rozpustit stek a soudnej den odložit na víkend. Rouler dans la farine, saouler avec un croissant et l'esprit engoulaché après avoir sauté sur le bout de l'art, le moment est donc venu de remballer nos quelques prunes et d'achever ce tchèque du bout de la langue. On se retrouve dans 2 semaines. En attendant, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt. Zatím, ahoj.
Merci Guillaume pour ce tchèque du bout de la langue. Une fois l'estomac bien rempli, nous allons nous allonger sur le canapé, si possible avec un bon bouquin, car le mois de mars en Tchéquie est le mois des livres et des lecteurs. Václav Richter vous parlera dans la rubrique littéraire de nombreuses initiatives qui sont organisées à cette occasion et qui prouvent que la lecture n'est pas une activité en voie de disparition en République tchèque.
Rencontre littéraire. Difficile à dire pourquoi mars a été choisi comme le mois des lecteurs. Toujours est-il que depuis de longues années, lecteurs, bibliothécaires, libraires, auteurs et traducteurs se mobilisent en République tchèque au mois de mars pour attirer l'attention du grand public sur les livres et pour défendre leur passion commune, ce vice impuni, la lecture, comme disait Valérie Larbeau. Cette année, les activités du mois des lecteurs en Tchéquie sont coordonnées par l'Union des bibliothécaires et des travailleurs de l'information. Roman Gibich, secrétaire de l'Union, présente ces activités organisées surtout par des bibliothèques publiques.
Letos máme vlastně druhý ročník této naší kampaně březen měsíc čtenářů.
Cette année, c'est la 2e édition de la campagne Mars, mois des lecteurs, mais l'année dernière, c'était une édition préparatoire, c'était un essai. Nous voulions savoir si les bibliothèques allaient se joindre à cette campagne, et nous avons été très surpris, parce que dès l'année dernière, 400 bibliothèques ont participé. Les bibliothèques ont manifesté un grand intérêt pour l'organisation des lectures, des débats publics et des semaines de lecture. Elles ont donc voulu revenir aux sources.
La liste des bibliothèques qui se sont jointes à la campagne Mars, mois des lecteurs est disponible sur le site internet de l'Union des bibliothécaires. Les activités du mois des lecteurs sont réparties en 5 chapitres que les organisateurs ont intitulés « Marathon de lecture », « Le lecteur de l'année », « Enquête », « Semaine de lecture » et « Nouveaux services des bibliothèques ». Roman Gibich signale que dans le cadre du marathon de lecture, 150 000 couronnes seront réparties parmi les bibliothèques qui organisent la lecture publique, mais aussi des rencontres et des discussions avec des auteurs.
Nous avons décidé avec notre významným partnerem finančně podpořit.
Nous avons décidé avec notre plus important partenaire de soutenir financièrement les lectures publiques des auteurs invités dans les bibliothèques, des débats avec des traducteurs et avec des personnalités intéressantes dans les régions. Nous avons proposé aux bibliothèques des sommes financières intéressantes pour organiser le marathon en 2 tours. Au premier tour, les bibliothèques ont pu choisir et inviter un auteur qu'elles jugent intéressant. Et dans le second, nous soutiendrons les auteurs nominés pour le prix Magnesia Litera de cette année.
Nové autory, kteří byli vlastně nominováni na letošní cenu Magnesia Litera.
Dès que les nominations pour Magnesia Litera, prix littéraire le plus important du pays, ont été rendues publiques, l'Union a lancé le projet de subvention pour le second tour du marathon de la lecture et toute une série de bibliothèques ont invité les auteurs nominés qui participent ces jours-ci à des séances de lecture. en même temps et organiser une enquête dans laquelle les lecteurs sont interrogés sur leurs préférences littéraires, mais les enquêteurs leur demandent aussi pourquoi ils fréquentent ou désertent les bibliothèques et quels services ils aimeraient y trouver. Roman Gibisch constate que ces enquêtes sont organisées surtout sous forme électronique sur Internet, car c'est plus pratique pour l'évaluation des résultats.
Spolupracujeme hodně se školami, které k nám chodí na besedy.
Nous collaborons beaucoup avec les écoles. Les élèves viennent souvent pour participer à des débats. Les étudiants nous rendent souvent visite. Je dirais que parfois ils ne veulent pas vraiment, mais ils sont obligés. Les élèves des écoles des premiers et second degrés sont cependant de très bons collaborateurs parce qu'ils ne sont pas gênés comme les bibliothécaires quand il faut sortir dans la rue.
Nemají takové zábrany jako například knihovníci vyjít ven do ulic.
Les étudiants ont moins de scrupules quand il faut poser des questions aux gens ou leur distribuer des tracts. C'est de cette manière que l'Union des bibliothécaires réussit à réunir beaucoup d'informations de la part des personnes qui aiment la lecture mais ne fréquentent pas les bibliothèques. Dans le cadre du mois des lecteurs, chaque région de République tchèque aura aussi l'occasion de choisir son lecteur de l'année. Ces lecteurs recevront des bons d'achat pour livres. Et vers la fin de 2011, un d'eux recevra dans la Bibliothèque nationale le prix du lecteur de l'année. Le prix lui sera remis par le directeur de la Bibliothèque nationale et il sera invité à assister à la cérémonie de remise des prix Magnesia Litera au Théâtre des États à Prague. Un des chapitres importants de ces activités est la semaine de lecture. Dans son cadre, les gens peuvent lire à haute voix les uns aux autres, organiser des concours de lecture, essayer les livres électroniques. Roman Gibisch les invite à sortir des sentiers battus, à chercher des endroits originaux insolites, à surprendre et même à choquer le public en lisant, par exemple, sur un toit, sur les branches d'un arbre ou à minuit sur une place publique.
C'est une grande manifestation qui se répète depuis plusieurs années et que nous avons inclus dans les activités du mois de mars. Au cours de cette manifestation, nous nous intéressons surtout aux œuvres et aux auteurs dont les anniversaires tombent cette année. En 2010, c'était donc le bicentenaire de la naissance du poète Karel Hynek Mácha et cette année, c'est le bicentenaire du poète Karel Jaromír Erben. Beaucoup de bibliothèques, et notamment leur département pour enfants, fêteront le centenaire de la naissance de l'écrivain Václav Čtvrtek.
Tandis que Karel Hynek Mácha et Karel Jaromír Erben font partie de la génération des fondateurs de la première moitié du 19e siècle, génération qui a ressuscité la littérature tchèque menacée d'oubli et de disparition, Václav Čtvrtek est donc presque notre contemporain. Cet auteur a écrit surtout pour les enfants et les petits lecteurs l'aiment beaucoup. On le considère comme l'héritier de Josef Vlada, de Ondřej Sekora et de Jan Drda, auteurs qui ont consacré le meilleur de leur talent à la création pour enfants. Les lecteurs les plus jeunes adorent toujours les contes que Václav Čtvrtek a situés dans la région de la ville de Děčín, paysage de son enfance. Les personnages de ces contes, le bon brigand Rumtsaïs, la poupée de pavot ou la petite fée Amalie, ne perdent pas leur popularité et sont toujours aimés par de nouvelles générations de petits lecteurs et aussi par de petits téléspectateurs, car toute une série de livres de Václav Čtvrtek a été portée au petit écran. Au cours de la semaine de lecture, les jeunes amateurs des séries télévisées basées sur les œuvres de Václav Čtvrtek seront donc invités à revenir aux sources et à connaître aussi les livres qui sont la base de popularité de cet auteur.
Chers auditeurs, c'est la fin du programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochová et Petr Pokorný. N'oubliez pas que demain, Radio Prague vous présente le magazine musical préparé par Alexis Rosenzweig. Vous pouvez bien sûr retrouver tous nos programmes sur Internet au www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse cr@radio.cz. Portez-vous bien, au revoir, nashledanou.
Radio Praga continúa ahora sus emisiones en español.